L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Bérénice Deville.
Et bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous sur Radio Patrimoine. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro cette semaine. Radio Patrimoine, je rappelle, c'est la première radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte l'ensemble, l'actualité économique, financière et immobilière, évidemment. Aujourd'hui, un numéro spécial et justement Duvert, responsable, solidaire, ce sont des mots qui résonnent, très en vogue en ce moment. Les investissements responsables et solidaires, on le vend en poupe, on peut le dire. Ça avait commencé avant la pandémie du Covid-19. La crise sanitaire et les différents confinements ont accéléré, voire amplifié l'éveil des consciences. Parmi tous ces investissements socialement responsables, on retrouve l'investissement immobilier. C'est le thème de notre émission aujourd'hui avec vous. L'investissement immobilier responsable. Et oui, ce n'est pas forcément la première chose à laquelle, enfin, qui peut nous venir à l'esprit quand on parle d'investissements qui ont un sens. Et pourtant, on en a besoin. Il y a un gros problème en France. 4,1 millions de personnes sont mal logées. 12,1 millions sont fragilisées par rapport au logement, selon la Fondation Abbé Pierre. L'investissement immobilier responsable est plus que jamais nécessaire pour en parler, justement. Alors, expliquer ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Le comprendre, à qui il s'adresse. Je reçois aujourd'hui 4 personnes. Alors, 3 autour de moi en studio. Et puis une personne également en visio. Alors on va commencer avec Caroline Libby, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice et dirigeante d'une agence immobilière Appart Essence, une agence immobilière responsable. Vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que c'est exactement, ce que ça veut dire. Ça va ? Vous venez de Lyon, là ?
Oui.
Ça va ? Le trajet fut bon ?
Parfait.
Bon, parfait. Avec vous également, Gaëlle Duranton. Bonjour.
Bonjour.
Associée en charge du développement immobilier donc pour Appart Essence, qui était dans... Vous venez ensemble, en fait.
C'est ça.
Ça va ?
Oui, ça va, très bien.
Marc Marinower, consultant en marketing et développement territorial.
Tout à fait.
Bonjour, ça va ?
Bonjour.
Et vous aussi, vous venez... Non, vous venez de Paris.
Oui, tout à fait.
Et enfin, à distance, nous avons Christelle Ortiz, conseillère en gestion de patrimoine et surtout fondatrice et dirigeante de RDFI Conseil. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous nous entendez bien ? Vous nous voyez bien ?
Parfait.
Parfait. Super. Eh bien, c'est parti pour l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Eh bien, on va commencer par tout d'abord présenter Appart Essence, donc une agence immobilière responsable. L'immobilier, l'investissement locatif responsable, qu'est-ce que c'est ? Nous avons donc sur le plateau Caroline, qui est la dirigeante et fondatrice de cette agence immobilière, donc qui est basée à Lyon, qui a commencé à Lyon, le projet est né à Lyon. Alors, expliquez-nous déjà, qu'est-ce qu'une agence immobilière responsable ?
C'est une agence qui va capitaliser sur les bonnes pratiques des agences immobilières traditionnelles, mais aussi sur tout le champ du social et de l'impact, et qui répond à un besoin sociétal, justement, c'est de pouvoir loger en priorité des personnes qui, malheureusement, sont exclues du parc locatif traditionnel, n'ont aucune raison d'intervenir, en tout cas qui ne sont pas prioritaires sur le parc social.
D'accord.
Et du coup, on est là pour encourager des propriétaires et des investisseurs à donner du sens en les logeant en priorité. Donc, on fait de la discrimination positive en logeant ces types de publics.
D'accord. Discrimination positive. J'aime,
oui,
j'aime beaucoup le terme. Comment est né le projet, déjà ? Est-ce qu'il y a, c'est une expérience personnelle, un déclic, j'imagine, je ne sais pas.
Perso et pro, j'ai toujours fait de l'immobilier à impact au démarrage dans des mutuelles, puis chez un bailleur social et plus récemment dans une association de lutte contre le mal logement qui s'appelle Habiter Humanisme. Et à titre personnel aussi, je me suis retrouvée monoparent.
D'accord.
Et j'ai connu la galère alors que j'avais tout pour pouvoir payer un logement.
Une situation,
une
ça veut dire vous gagnez convenablement votre vie.
Tout à fait. Et l'humiliation de devoir redemander aux parents d'être garant pour pouvoir se loger en tant que locataire alors qu'avant, j'étais propriétaire.
D'accord.
Donc c'est là où ça a été un déclic.
Donc vous étiez propriétaire, vous êtes redevenu locataire.
Ouais.
Il a fallu on vous a dit demandez à vos parents de vous porter garant, en fait, c'est ça ?
Exactement. Donc une situation qui, du coup, n'est pas forcément très agréable à vivre.
Ouais.
Et je me suis dit, moi, qui ai les codes, qui vient de l'immobilier et qui sait déposer un dossier, qu'est-ce que ça doit être pour ceux qui ne sont pas issus de l'immobilier et qui ne savent pas comment faire et qui, du coup, se retrouvent à devoir parfois bidouiller pour pouvoir avoir un logement.
Alors bidouiller, c'est quoi par exemple?
C'est faire défaut. Il y a de temps en temps, malheureusement, des personnes qui sont dans l'obligation pour pouvoir trouver
un logement. De temps en temps, c'est même assez fréquent. Hein,
surtout à Paris.
Surtout à Paris, oui. Bon, je connais des gens qui connaissent des gens qui l'ont fait, voilà. Bon, alors concrètement, donc Apart Essence est né à Lyon. Aujourd'hui, où ça en est du coup?
On est dans cette vocation, Lyon est un vrai berceau de l'humanisme, donc il y a pas mal de structures impact qui sont nées à Lyon. L'idée après, c'est de pouvoir se déployer, donc c'est chose faite depuis un an. Nous avons nos premiers logements à Paris, intramuros, c'est même en première couronne.
D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous faites du coup concrètement? Qui sont vos clients?
Alors, les clients, c'est les propriétaires, bailleurs, mais aussi des investisseurs. Ça va être le zoom qu'on va faire aujourd'hui, d'expliquer, et ça sera Gaëlle qui va bien vous présenter ça, sur les investisseurs qui souhaitent justement investir dans l'immobilier autrement qu'avec du Pinel et autres. Voilà, nous, on propose des dispositifs vraiment à impact. Après, les bénéficiaires, parce qu'on fait la différence entre les clients qui sont les propriétaires et investisseurs et les bénéficiaires qui sont les locataires. Donc, je vais peut-être les présenter un petit peu.
Bien sûr, avec plaisir.
Des familles monoparentales, bien entendu, des personnes qui démarrent dans la vie, donc ça peut être des jeunes actifs qui sont sans garant, des intermittents du spectacle.
Il y en a beaucoup
En fait, on a l'impression que c'est un épiphénomène, alors qu'en fait, quand on regarde la situation aujourd'hui, il y a quand même de moins en moins de personnes qui ont envie d'être en CDI ou qui restent 20 ans dans la même boîte. C'est vrai qu'on a de plus en plus de personnes qui sont dans ces créneaux, qui sont d'être un peu différents. Donc les indépendants, les intermittents, et puis aussi toutes ces personnes qui sont victimes de discrimination, quel que soit le type de discrimination.
Comme quoi, par exemple?
Les handicapés, les personnes issues de l'immigration. On sait bien que c'est pénalement sanctionnable de ne pas loger, mais c'est une réalité, on en a bien conscience. Et puis tous ces indépendants. On a aussi beaucoup de couples où, en fait, on peut avoir une personne qui est en CDI et l'autre qui n'est pas reconnue.
Et ça ne suffit pas, une personne en CDI?
On va regarder la solvabilité que sur la personne qui est en CDI, alors que l'autre peut parfois gagner encore mieux que celui qui est en CDI. Et donc, du coup, se retrouve dans des situations qui sont complètement ubuesques, en fait.
Ouais. Et du coup, vous trouvez que c'est beaucoup trop strict, en fait? Ça vient d'où, ça?
Ça vient... Alors, je pense que notre profession d'administrateur de biens a besoin d'être un peu dépoussiérée, qu'on a mis en place des systèmes de garantie loyer impayé qui ne sont plus du tout en réalité avec la situation économique. Et du coup, nous, on met un peu le pied dans la fourmilière pour bousculer les codes, casser les préjugés et se dire qu'il faut faire autrement. La preuve en est, c'est que sur nos profils de locataires, on a zéro impayé. Donc on arrive à prouver que notre démarche, en fait, permet d'aboutir sur une démarche zéro impayé, puisqu'on est avec des propriétaires engagés, des locataires investis.
Et comment vous l'expliquez, ça, que vous ayez zéro impayé? Est-ce que vous faites une sélection? Est-ce qu'il y a une sélection qui se passe de locataires?
Complètement. Donc, on va, par priorité, on va prendre justement ces personnes qui sont discriminées, donc on fait cette fameuse discrimination positive. On va veiller à ne prendre que des candidats qui sont solvables. Ça, on insiste dessus. On est vraiment sur ce sujet de la solvabilité.
Et pour vous, solvable, c'est quoi alors? Parce que c'est différent pour une banque, pour...
On est sur les mêmes critères, c'est les fameux 33%.
Ouais, 33% aussi.
On peut aller jusqu'à 35%. Ouais. Et on regarde énormément aussi le reste à vivre. C'est le double critère, c'est le reste à vivre et le taux d'effort.
Oui, parce que le reste à vivre, c'est pas le même quand on gagne,
Exactement.
Quand on gagne 2000 euros que quand on gagne 10 000 euros, forcément.
Exactement.
Et du coup, vous regardez tout ça?
On regarde tout ça. Et donc, du coup, après, on présélectionne grosso modo entre 2 et 3 candidats. On rend les dossiers anonymes à sexuer pour que, justement, quand on parle de discrimination positive, l'intérêt, c'est de ne pas en recréer une. Et le propriétaire fait son choix avec nous, parce que de temps en temps, c'est très complexe pour un propriétaire.
Ah oui,
il a envie. Marc, je pense, pourra en témoigner. C'est très complexe de pouvoir choisir quand il y a 3 candidats et avec des situations de vie qui interpellent par le cœur, en fait, en disant on a envie d'aider les 3, sauf qu'il va falloir faire un choix.
Du coup, vous dites quoi si vous dites pas les noms, pas le sexe? Vous dites quoi? Juste une personne de 33 ans? Non, juste la situation? Vous dites l'âge ou pas?
On peut donner l'âge, en effet, et on donne surtout la situation très objective de la situation à un instant T. Souvent, c'est une situation qui peut être temporaire, de dire voilà la situation de cette personne-là, et après, le propriétaire fait son choix. Et puis après, il y a ce temps formidable de la rencontre. Le propriétaire et le locataire sont amenés à se rencontrer et c'est là où on crée un énorme lien de confiance qui fait qu'il s'instaure dans la durée et qui nous amène à avoir cette démarche zéro impayé.
Ils se rencontrent à quel moment? À remise des clés, signature du bail?
Alors on a tenté à la remise des clés, signature du bail, état des lieux, c'était pas forcément le plus pertinent puisqu'il y a trop de choses. En fait, on attend qu'il y ait une belle... C'est un peu stressant, donc on attend qu'il y ait une belle installation.
D'accord.
Et au terme de un mois, deux mois, quand... on peut faire le rendez-vous, on le fait donc soit en présentiel, et puis bien entendu, depuis un an, on le fait plutôt en visio.
D'accord, donc en fait, la personne s'installe dans l'appartement, vous la laissez un petit peu voilà, prendre ses marques, et un mois après, vous organisez, donc c'est vous qui organisez ça ?
C'est l'équipe avec le propriétaire et le locataire, et puis après, nous, on est juste là pour accompagner, et puis après, il se crée des belles histoires, et puis souvent, le propriétaire et le locataire sont amenés à se rencontrer sans forcément qu'on soit présent.
Et puis
tous les ans, lors de la préparation de l'Assemblée générale, les propriétaires et les locataires aussi peuvent refaire un point afin que le propriétaire puisse être alimenté d'informations pour l'Assemblée générale. Et du coup, nos confrères syndics sont juste ravis de voir qu'on fait vivre aussi la copropriété avec des locataires qui sont engagés puisqu'ils font des retours. Et pas que des retours pour râler, mais plutôt aussi pour amener les choses positives.
Ah, ça arrive, ça existe.
Et bien entendu.
Parce qu'on entend toujours les mauvaises choses, ouais. Et du coup, donc ça se passe bien.
Ah ben ça se passe extrêmement bien, voilà. Donc on est vraiment engagé dans cette démarche de dire on est dans cette démarche responsable où on parle à des habitants responsables. Donc les locataires se positionnent comme si quelque part ils étaient propriétaires.
Est-ce que c'est pas un peu, alors parce qu'on entend beaucoup de choses responsables, solidaires, est-ce que c'est pas un peu une mode ?
Alors on peut voir ça comme une mode. Après autour de la table vous avez des gens... Nous quatre, nous sommes extrêmement investis sur ces sujets-là. Je pense qu'on a une vision sur ces sujets. Bien entendu, ça a été renforcé avec ce qui s'est passé cette année, depuis un an.
Vous l'avez senti, ça ?
On l'a senti. Après, oui, énormément. Il y a une vague de consommation responsable. C'est-à-dire que les gens qui sont en consommation circuit court, qui identifient tous les... Enfin, qui sont très vigilants sur tous leurs actes de consommation, bien entendu, on leur dit, il y a un chaînon manquant. On vous invite, si vous avez du patrimoine, à le faire, une consommation responsable de votre patrimoine.
Et les gens sont réceptifs ?
Extrêmement.
Plus qu'avant la crise ?
Oui. Ouais. En fait, on se rend compte là qu'on a de plus en plus de propriétaires et d'investisseurs qui viennent, qui sont en quête de cette consommation responsable d'immobilier et qui viennent nous rechercher. Et voilà. Enfin, Gaëlle va pouvoir témoigner sur ces sujets.
On va en parler plus en détail tout à l'heure sur vraiment le côté investissement. Juste pendant le confinement et après, est-ce qu'il y a eu plus de demandes de locataires qui ont du mal à se loger ?
Alors malheureusement, la demande, elle est juste énorme, on ne pourra jamais... nous, on invite d'autres acteurs à se positionner. Il y a une demande qui est juste impressionnante. Ouais. Donc ça, c'est... nous, on est juste là pour éveiller une sorte de conscience auprès des propriétaires pour pouvoir justement nous proposer des biens. Mais en face des locataires, bien entendu, qu'il y en a de plus en plus. Et c'est vrai qu'on avait une petite crainte, je ne vous le cache pas. On a beaucoup d'indépendants en se disant qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'on risque d'avoir de l'impayé ? Et en fait, on n'en a pas. Ou on a des moments où on adapte et on fait une petite facilitation, une petite facilité de paiement, mais...
Christelle, qui est avec nous en ligne. Christelle, est-ce que vous nous entendez ? Vous êtes sur le terrain puisque vous conseillez au quotidien, en fait, vous êtes conseillère en gestion de patrimoine et fondatrice aussi également de votre société de conseil. Est-ce que vous ressentez du coup depuis la pandémie cette envie de responsabilité, de solidarité ?
En fait, pas autant que j'aimerais. Je la ressens parce qu'elle est associée à l'immobilier.
Ouais.
En fait, on ressent plus un besoin de sécurité. Et c'est là où l'immobilier va jouer son rôle. Moi, j'ai plutôt eu le sentiment que ça éveillait des projets assez personnels, assez tournés vers les rêves des personnes en se disant bah, finalement, puisqu'on a ce temps-là, on va se donner l'autorisation de réaliser des choses qui étaient très enfouies. Soit vers une sécurité de la cellule familiale. On a vu que nos enfants, etc., pouvaient être en difficulté. Donc, on va resserrer les liens ou la sécurité à l'intérieur de la cellule. Pas forcément de façon très ouverte sur le monde. Ce que Caroline évoquait, effectivement, sur on a beaucoup, beaucoup de sollicitations. Oui, moi, je le vois plus comme l'immobilier est un vecteur de sécurité. On a vécu une période instable et donc on va aller rechercher la sécurité dans ses placements financiers. Pas encore avec cette dimension de on veut faire quelque chose d'utile. Alors, heureusement, quand on vient chercher et qu'on dit finalement, on peut associer cette sécurité avec quelque chose d'utile, beaucoup, beaucoup de gens sont sensibles à ce discours-là.
Oui.
Mais.
Faire les deux.
Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est ce qui a été intéressant sur cette période de confinement, c'est que je crois que la prise de conscience aussi de la précarité de la situation sociale ou de la situation professionnelle a impacté pas mal. Moi, je travaille beaucoup avec des dirigeants d'entreprise qui, heureusement pour beaucoup, ont plutôt pas trop mal traversé la période, mais ont vu leurs enfants, leur entourage proche qu'ils estimaient pas forcément en danger, être en situation difficile. Et je crois qu'aujourd'hui, du coup, ce discours de tu peux, tout en voulant privilégier ta cellule personnelle, mais faire quelque chose à destination d'une population qui semblait pas dans ton environnement, puisque les gens en situation précaire, ils voyaient ça de loin. Et avec ce qu'on a vécu l'année dernière, les gens en situation précaire, finalement, ça peut être leurs enfants. Et c'est dans ce sens-là où je pense que aujourd'hui, c'est plus facile d'amener ces personnes-là sur l'investissement socialement responsable au travers de l'immobilier.
Oui, on se rend donc compte que leurs propres enfants peuvent être impactés par cette précarité, justement.
C'est ça, tout à fait. Eux aussi sont concernés.
D'accord. Et c'est vrai, vous disiez tout à l'heure, la pierre rassure, en fait. C'est un investissement que les Français aiment particulièrement. L'investissement dans la pierre, ça rassure, c'est concret.
Oui, on a vu quand même au moment du premier confinement, les marchés financiers s'écrouler de plus de 40% en l'espace de 2 semaines. Oui, on sait qu'il faut soutenir l'économie, qu'il faut mettre son argent dans des sociétés aussi pour faire tourner. Mais il y a une volatilité, et puis en plus on a un problème de culture financière en France qui est quand même extrêmement basse par rapport aux anglo-saxons. Donc ça a renforcé l'attrait de la pierre. Parce que déjà, il y a une appétence du français pour la propriété immobilière. Et en plus, parce que comme il y a eu cette volatilité et qu'il y a une méconnaissance globale des marchés financiers, il y a eu en même temps un retrait de ces marchés-là en se disant « Waouh, moi je ne suis pas forcément prêt à supporter telle variation », alors que l'immobilier continue de progresser et que c'est une façon d'être plus serein avec mes placements.
D'accord. On va faire une courte pause musicale. Juste après, on va retrouver Gaël et Marc. Gaël, vous allez nous parler de l'investissement concret, pur et dur. Comment on fait? Comment ça se passe? Voilà. Et Marc, et aussi votre expérience du terrain, puisque on en parlera, mais vous connaissez bien les choses. Une pause musicale. On y va. On écoute et on en discutera après.
Yeah, 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 la. Yeah, 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 la.
I know love, I know freedom, and I know the world. What to stand up for? I got me don't know like me. What the hell they fighting for? Now the man with the blame ring is further apart. But he do not know. You can't rule another's heart. You can't get a love alone.
J'ancrai l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits.
نفس الشمس بتشرق علي وعليك. نفس النجمة بعيوني بتضوي بعيني.
Amizade até sem querer, faz com que a bondade se instale sem saber. Com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver.
Yeah, 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 yeah.
La grande vie nous a plongé dans sa cohue. Dehors y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus.
Yeah, 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 yeah.
Voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté.
Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois.
Non, 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 non.
Ce Solidarité de M. Toumani, Sidiki Diabaté, Fatoumata Diawara. Pourquoi cette musique, Caroline ?
C'est joyeux, c'est voilà, il y a une belle mixité, c'est ouais. Tourné vers le monde et ça envoie du peps. Enfin, c'est un gros coup de cœur. Voilà, c'est la chanson pour moi que j'ai envie d'écouter quand on est sur des sujets d'appartenance que je me mets régulièrement en boucle. Donc, merci d'avoir pu la...
Eh ben avec plaisir, on est de retour sur le plateau de l'Hebdo Patrimoine sur Radio Patrimoine. Merci d'être avec nous. On parle investissement immobilier responsable. Alors, appartessence, hein, c'est l'agence immobilière responsable dont on parle aujourd'hui. Caroline, donc fondatrice. On a également Gaëlle. Vous êtes du coup l'associée en charge du développement immobilier. Alors, on va parler de cet investissement. Qu'est-ce que c'est que l'investissement immobilier responsable ? Qu'est-ce que ça veut dire déjà, pour ceux qui débarquent là, qui ne connaissent pas ?
Alors, j'ai envie de commencer par dire que c'est un investissement intelligent.
D'accord.
Parce que, comme le disait Christelle, en fait, il allie deux choses qui sont souvent malheureusement opposées, c'est-à-dire le profit, l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. Donc, concrètement, c'est un investissement via le biais d'une acquisition d'un logement social qui s'appelle le PLS, le prêt locatif social. Donc, c'est un logement social comptabilisé dans les contingents SRU qui permet à l'individu, le citoyen, de devenir finalement bailleur social privé. Et grâce au système qui permet de plafonner les ressources du locataire, comme on peut l'entendre par exemple pour le Pinel, ce sont des ressources un petit peu plus basses, il vise une clientèle dite intermédiaire, classe moyenne, et vous avez un plafond de loyer également à appliquer. Vous conventionnez avec l'État sur 15 années, et en contrepartie, vous avez une acquisition à prix réduit. Donc je dis bien un prix décoté par rapport au marché classique.
Combien ?
On va dire idéalement entre 25 et 30%, ce qui comprend l'abattement TVA. Donc, appartessence fait de l'accompagnement auprès des promoteurs immobiliers qui veulent donner une alternative au logement social. Parce qu'aujourd'hui, souvent, l'idée, c'est de vendre en bloc à un bailleur social. Mais quelquefois, on ne rencontre pas ce bailleur social ou on a envie de faire différemment. Mais appartessence apporte une solution aux collectivités, Marc pourra en témoigner, apporte une solution aux collectivités pour aborder des immeubles de petite taille avec quelques logements sociaux et en faisant appel aux citoyens pour devenir cet investisseur bailleur social privé. Du coup, l'investisseur se voit acquérir ce bien à un prix décoté qui va inclure un abattement de TVA. Au lieu de 20, on est à 10% de TVA, donc autant vous dire que sur certains secteurs, c'est énorme. Au-delà de ça, il y a une décote dite de promoteur, puisque là aussi, le promoteur contribue. Donc avec les paroles de Caroline tout à l'heure, j'avais envie de parler de ce petit colibri, chacun fait sa part, donc promoteur compris. Et en face, l'État va plus loin, octroie pendant 15 ans minimum, c'est-à-dire la durée de conservation, une économie totale, une exonération totale de la taxe foncière.
D'accord.
Donc là, on a vraiment deux points d'attache, des bénéfices directs pour l'investisseur. Et pendant 15 ans, il vise une population intermédiaire. Ce que l'on connaît peu, c'est que le logement social s'adresse à 80% de la population française. Ça veut dire que quelqu'un qui gagne aujourd'hui 1 500 euros, 1 800 euros net par mois sur une région comme Lyon, ou plutôt 2002 sur Paris, va être un candidat au logement social. Sauf que le bailleur social aujourd'hui est acculé par la précarité, grande précarité, un développement quand même au ralenti, avec une image quelquefois qui n'est pas forcément très glorieuse, et c'est bien dommage. Donc l'idée, c'est que bailleur social plus individu citoyen engagé, eh bien on va réussir véritablement à répondre à cette demande de logement de plus en plus accrue.
Marc, vous qui êtes consultant en marketing et développement territorial, donc vous connaissez bien les collectivités, mais aussi les promoteurs. Hein, vous connaissez bien le public, le privé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, sur ce que vient de dire Gaël ?
Donc, je connais bien, en effet, les collectivités. On va dire que c'est même mon cœur de métier d'accompagner les collectivités dans leur développement, dans la question de développement territorial, de nouveaux quartiers, de quartiers en renouvellement urbain, etc. Et la question du logement est toujours une question importante pour les élus. Donc de pouvoir tout simplement...
Loger les gens
sur des marchés tendus où c'est souvent très très difficile. Et globalement, les élus sont conscients du fait que voilà, leurs administrés ont des enfants, des amis, etc., en difficulté pour trouver un logement. Et ils n'ont pas forcément ni le réflexe d'aller faire des demandes de logement social classique. Parce que ça peut être tout simplement ne pas en avoir conscience du fait qu'on peut y avoir droit sur le papier en tout cas.
Et on s'imagine que c'est long, fastidieux.
On s'imagine que c'est long et fastidieux. C'est également long et fastidieux, c'est-à-dire que tout le monde ne trouve pas de solution ainsi. Et donc les élus sont très très demandeurs de nouvelles solutions pour tout simplement pouvoir accueillir ces classes intermédiaires. Dès lors, dans les discussions avec les promoteurs avec lesquels je travaille également, dans les discussions, ils émettent ce besoin, cette demande, cette attente de trouver des solutions de logement. Les promoteurs, qui sont très souvent en compétition sur tel ou tel projet de quartier, d'aménagement, etc., trouvent ici une manière de se différencier en proposant, en se montrant ouvert à ces dispositifs responsables et solidaires, en même temps que, au fond, chez les promoteurs, comme dans n'importe quelle entreprise en France, il y a toute cette question de la responsabilité sociale des entreprises qui est présente et qui, du coup, pour des raisons à la fois, je dirais, d'éthique, mais des raisons également de marché, de compétition, de compétitivité.
Oui, ce que j'allais dire, c'est que c'est alors, on parle beaucoup d'éthique, etc., mais pour certains, est-ce que c'est pas un peu du greenwashing, justement, pour avoir d'autres projets derrière? On fait croire qu'on est un peu solidaire, responsable.
On fait croire, en même temps, il y a une réalité, c'est-à-dire que les groupes aujourd'hui réfléchissent, sont plus conscients des questions environnementales, sociales, etc., mais bien évidemment aussi par rapport aux attentes ou aux aspirations sociétales. Donc oui, il y a une question d'opportunité, mais également une question de conscience. On se sent mieux ainsi. Et si ça fait la différence et ça permet de gagner des projets, bien évidemment, donc c'est un...
Oui, c'est un plus.
C'est un plus.
Caroline, Gaëlle, les gens qui font, vos clients qui font de l'investissement locatif responsable, c'est plus quoi, du privé ou des promoteurs c'est qui en fait? Qui sont ces profils
Le profil de l'investisseur, celui qui achète le logement intermédiaire, le PLS. Oui. Alors il y a vraiment tout. Évidemment des promoteurs qui ont bien compris que le bien était hyper intéressant. Donc nous on travaille avec eux à développer ce type de produit. Et puis l'investisseur, j'allais dire la cible idéale, c'est quelqu'un qui a déjà un portefeuille. Comme le disait Christelle, comme c'est un produit de sécurisation, on est sur de la diversification de portefeuille. Et en plus, ce qui est assez magique si on rentre dans le détail de ce dispositif, c'est que en l'associant à un autre dispositif, à savoir que le PLS est le seul bien qui présente un dispositif double, on va améliorer le rendement, d'accord ? Donc c'est des rendements qui sont de 8% net, 10% net l'an.
Ah oui,
donc,
c'est autant, ouais.
On en est là, vraiment, inclus frais de gestion, tout. C'est du net gain sur opération, donc le profit est réellement au rendez-vous. Et en fait, le client investisseur va faire cette acquisition, diversifier son patrimoine, absolument pas augmenter son revenu foncier, et au contraire, créer du déficit foncier. Donc, c'est assez magique. Donc, je le répète, grâce à la prise de conscience et à l'argent de cet investisseur, on va pouvoir loger pendant 15 ans minimum, et on a beaucoup d'investisseurs qui vont plus loin. Donc aujourd'hui, nos investisseurs, c'est des gens évidemment qui ont les moyens, puisque faire un investissement locatif, il faut quand même avoir les moyens. Faut le pouvoir, bien entendu. Et puis qui ont envie de cette, alors j'ose dire quelquefois, fraise, plutôt que cerise, fraise, voire pamplemousse pour certains, et qui ont vraiment cette conscience qu'un locataire, ce n'est pas juste quelqu'un qui doit être riche et avec des gros garants. Quelqu'un qui gagne sa vie et qui est solvable est investi.
Oui.
Et puis,
on va en reparler juste après. Christelle, qui est du coup au quotidien avec vos clients, conseillère en gestion de patrimoine, dirigeante et fondatrice aussi. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous proposez à tous vos clients qui souhaitent faire de l'investissement locatif responsable, ou il y en a qui sont plus susceptibles d'accepter que d'autres? Comment ça se passe?
En fait, il y a des investisseurs qui sont vraiment dans la recherche d'investissement responsable.
Qui vous demandent du coup?
Voilà, tout à fait, qui viennent nous voir avec ce cahier des charges-là et qui des fois aussi sont insatisfaits de ce qu'ils ont eu jusqu'à présent en investissement socialement responsable parce que c'est très souvent tourné vers du produit financier. On a aujourd'hui beaucoup de fonds avec des labels gouvernementaux ou autres, mais des labels ISR, investissement socialement responsable, mais en fait qui ne sont pas satisfaisants pour le client parce que ça n'a pas de goût, pas d'odeur. Il a un portefeuille, il se dit « Ok, c'est un peu plus propre que le reste, mais ça, il n'a pas ce côté citoyen, en fait, pas ce côté d'être utile. »
Il ne s'en rend pas compte, en fait. Il n'a pas l'impression d'être solidaire.
Il a une conscience, il se dit « Ok, j'ai fait mieux que la moyenne, mais en fait, à quoi ça sert tout ça? Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. » Alors que quand on l'amène justement sur l'investissement immobilier socialement responsable tel qu'Appartessence le prévoit et tel qu'Appartessence le fait vivre, il y a une vraie histoire, il y a une vraie identification de quel bien j'achète, je vais même pouvoir rencontrer mon locataire, je vais créer du lien. Et en même temps, ce n'est pas source de complexité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai des investisseurs qui se disent aussi on pourrait faire de l'investissement socialement responsable de proximité en investissant dans une PME qu'on va accompagner, qu'on va faire du tutorat, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de risques, parce qu'on sait qu'il y a des PME, même très vertueuses, il y en a beaucoup qui disparaissent. Je n'ai rien à faire, j'ai un portefeuille ISR, je ne m'en occupe pas, je vais donner en gestion. Et entre les deux, il y a effectivement de l'immobilier où Appartessence va faire le plus gros du boulot. Il y aura une petite implication ou pas du propriétaire, mais en tout cas, ce sera vraiment concret pour lui. Donc, on a cette clientèle-là qui est vraiment, dès le départ, dans cette démarche-là. Et puis après, on a des investisseurs qui sont là pour se dire, bah, moi, j'ai envie de gagner de l'argent ou de faire un investissement qui me permette en tout cas de valoriser mon capital, de ne pas le perdre, ce capital, donc d'économiser au moins l'équivalent de l'inflation. Et ceux-là, souvent, ils sont assez scotchés de découvrir à quel point il y a énormément de choses, de dispositifs qui existent. Le PLS, c'est juste top, à part son taux. Vous avez que les pouvoirs publics fassent quelque chose. Les conventionnements ANA, enfin, il y a énormément de dispositifs d'accompagnement. Et là, souvent, les investisseurs se disent mais c'est magique, quoi. Comme quoi, je peux moins gagner avec un loyer plus faible, mais au final, que ce soit plus rentable pour moi. Et c'est donc un autre cheminement. C'est un petit peu plus compliqué à comprendre, mais franchement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ouais. Et là, on a des investisseurs purement financiers qui se disent, finalement,
ça vaut le coup.
Pas être... Voilà, à la fois, c'est intéressant, et en même temps, je vais pouvoir dire que je fais quelque chose d'utile.
Marc, on vous voit hocher la tête. Vous êtes totalement d'accord avec ce que dit Christelle. C'est votre cas
Oui, donc, j'écoutais, je me disais, effectivement, on est dans l'utile et l'agréable. C'est-à-dire que, utile, parce que, voilà, c'est une vraie fierté que de pouvoir loger quelqu'un. Enfin, moi, je suis propriétaire d'un appartement géré par Appartessence. Mais effectivement, voilà, c'est une vraie fierté, une vraie satisfaction. C'est pas facile au moment où on fait le choix. Parce qu'on voudrait rendre service à tout le monde. Mais,
ah oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, voilà. Caroline. C'est compliqué. Bon, ouais.
Mais on fait le choix. Après, voilà, c'est du ressenti, etc. Mais c'est une vraie... voilà, c'est incarné. C'est-à-dire que on connaît les personnes, on les rencontre, etc. C'est une vraie histoire. On connaît l'appartement, c'est pas...
Et vous, votre locataire, par exemple, vous le rencontrez tous les
rencontre mes locataires au moment où ils sont arrivés dans ce bien. C'est autre chose que d'avoir, des parts des SCPI, vous voyez.
Ouais.
Donc, c'est très incarné.
C'est plus concret.
Voilà. Donc, l'utile et l'agréable, puisque, effectivement, le bilan rentabilité de cet investissement est tout à fait positif. Donc, au fond, on a un certain alignement des planètes entre les besoins de la société, les besoins des locataires et nos propres intérêts. Donc,
Caroline, dès que vous avez eu l'idée de créer Appartessence, c'était important pour vous, justement, que les gens ressentent ça, que les propriétaires ressentent ça. Vous pensiez à ça ou vous pensiez uniquement aux locataires
Moi, c'était on a une boucle vertueuse en disant que les profils de propriétaires peuvent être aussi des locataires. Et on a d'ailleurs dans notre portefeuille une propriétaire qui nous a confié son bien parce qu'il ne correspondait plus à ses besoins à un instant T et qui est locataire aussi chez nous.
Ah oui.
Parce qu'elle elle a beau être propriétaire, elle ne pouvait pas se reloger dans le parc privé traditionnel.
Fou, ça, hein.
Et c'est là où, en fait... Du coup, c'est pour nous des exemples exceptionnels parce qu'en fait, les profils des propriétaires et des locataires sont exactement les mêmes. Après, j'en profite du coup par rapport à l'investissement et l'incarnation, c'est qu'on invite, pour ceux qui le peuvent, les propriétaires et locataires à intégrer notre gouvernance. On a un comité de gouvernance, on en a d'ailleurs un la semaine prochaine, et typiquement, on parle de sujets où, en termes de stratégie, c'est assez profond. Là, on s'est mis en mode « c'est qui le patron ?» Et du coup, les propriétaires et même les locataires, puisque les locataires sont aussi partie prenante de ce comité, on est en train de décider ensemble de nos positionnements en termes d'honoraires.
D'accord.
On met tout sur la table. En fait, on ne cache
c'est
rien.
C'est transparent.
Bah, c'est vrai que c'est un métier, administrateur de biens, les assureurs, tout ça, on ne comprend pas. On ne comprend pas les honoraires, le positionnement. Et donc, nous, aujourd'hui, on
travaille... Et on ne se pose pas de questions, en fait.
C'est un problème de pédagogie. Je pense que dans le métier, on est des fois un peu en vase clos et qu'il faut oser expliquer, être plus pédagogue. Donc là, on montre tout, on explique en taux horaire. Forcément, nous, on a des collaborateurs qui sont... correctement payé parce qu'on fait un métier de niche. Donc du coup, ce n'est pas du made in China. On est toujours dans ce système de circuit court et de valorisation, on crée des postes. Et donc forcément, si on veut avoir un travail de qualité, ben, il faut rémunérer. Et donc du coup, ce travail pédagogique, la dernière fois, les propriétaires nous ont dit « mais en fait, on ne vous paye pas assez ». En fait, on se refuse d'être dans low cost. Souvent, on assimile l'économie sociale et solidaire à du low cost. Et on se dit « mais bien sûr que non, c'est tout l'inverse
». Gaëlle, qu'est-ce que... Alors, une des plus grandes peurs des investisseurs, ça ressort des études, on en parle beaucoup dans nos émissions. Avant de faire un investissement locatif, bon, c'est les démarches, c'est compliqué. Et la deuxième, c'est de ne pas être payé. Que le locataire ne paye pas son loyer. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce qu'il n'y a pas des investisseurs ? Parce que là, on se dit, OK, les gens sont solvables, mais c'est quand même des personnes qui ont été refusées ailleurs. Et qu'est-ce que vous répondez à ça, aux investisseurs qui ont peur de ça ?
Alors déjà, ben on les rassure, hein, parce que la peur, ça c'est évidemment, ça habite l'acquéreur. Donc on les rassure et on leur explique qu'on travaille avec des garanties qui permettent de couvrir l'éventuelle peur ou réalité. Mais aujourd'hui, on est en zéro impayé. Donc garantie loyer impayé qui a été totalement détricotée, qui permet de couvrir toute la population dont on vous a parlé. Donc un chômeur en reconversion, par exemple, qui apprend un métier, c'est le cas d'un locataire de marque, il est tout à fait solvable, il est rémunéré pour faire sa formation et il a déjà un emploi à la clé. Donc finalement, c'est déjà même son statut qui permet d'être rassurant. Mais si on veut, on a une garantie loyer impayé pour couvrir tout ça.
Et la garantie loyer impayé, elle marche dès le premier mois.
Il n'y a pas de carence, etc.
L'investisseur est payé. Parce qu'il y a Exactement. Beaucoup d'investisseurs. Alors, Marc, je ne sais pas si c'est votre cas, mais qui investissent et qui ont un prêt derrière. Parce qu'on dit, oui, les propriétaires sont aisés, etc. Pas tous. Il y en a qui ont un prêt derrière, qui ont besoin de ce loyer, d'être payés pour rembourser le prêt. Et s'ils ne sont pas payés, c'est une catastrophe, en fait.
Du coup, avant que Marc reprenne la parole, pour expliquer que ça aussi, c'est un accompagnement de l'investisseur. Aujourd'hui, nous, on est dans cette authenticité et ce réalisme, en fait. Souvent, on dit on n'est pas des bisounours. On a cette expérience métier. Donc, l'investisseur, il est conduit vers un bien qu'il peut acheter. On l'accompagne au niveau des banques, au niveau de son investissement, puisque le PLS est un prêt quand même bien particulier qui passe par des banques agréées. Donc, tous ces contrôles-là, on l'accompagne pour le rassurer aussi sur sa solvabilité à lui. L'idée n'est pas d'aller chercher un client qui va être attiré par la solidarité, mais qui va lui-même s'y retrouver donc, dans l'embarras. Donc, ce n'est pas le but. Et le locataire, aujourd'hui, on parle de gens solvables. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'aller accueillir quelqu'un qui n'aurait pas les moyens de payer le loyer.
Ça, faut bien le préciser.
Ça, c'est très important. Donc, ils ont deux points communs, finalement, nos locataires. Leur galère, parce que les idées reçues nous ont fait passer dans la tête que si vous n'êtes pas en CDI ou pas fonctionnaire, vous n'êtes pas solvable. Aujourd'hui, un entrepreneur, qu'il soit jeune ou plus âgé, il a les moyens de... Nous sommes indépendantes, et même Marc, et nous avons les moyens de payer un loyer. Donc arrêtons avec ces préjugés, c'est des idées reçues. Et oui, aussi, on déconstruit cette image. Quand la rencontre propriétaire-locataire se passe, on déconstruit l'image du locataire, évidemment, qui détruit les appartements et qui est insolvable. Mais on détruit aussi l'image. En tous les cas, on casse ces idées du propriétaire qui est forcément que dans l'opulence.
C'est vrai que des gestionnaires de copropriété le disent. Parfois, oui, les appartements sont rendus dans des états dramatiques. Ça effraie aussi les propriétaires. Dans quel état je vais retrouver mon bien ?
Oui,
alors, ce qui est normal, c'est un investissement, on y tient quand même.
Non, mais c'est évident qu'on tient à son investissement. Nous, on a l'avantage d'accompagner les gens. Cette gestion locative humaine que l'on déploie, elle est là aussi pour faire prendre conscience. Le locataire, il a des droits, bien entendu, mais il a aussi des devoirs. Chez nous, le locataire, il est les yeux du propriétaire.
Juste, Marc, vous aviez peur. Ça faisait partie de vos peurs, ça? Dans quel état je vais retrouver mon bien?
Je pense que l'un des arguments aussi forts est le fait que ces appartements ne soient pas dans un immeuble uniquement voué au social, qui est d'ailleurs un dispositif qui est excluant pour les gens qui s'y trouvent, mais sont disséminés dans des résidences classiques.
Ouais.
Et donc, du coup, il y a des effets de voisinage,
contrôle, masse, en fait.
De contrôle social qui font que ça se passe extrêmement bien. Et c'est un, c'est un vrai argument tout à la fois pour le propriétaire, pour le locataire et un vrai dispositif permettant une meilleure intégration sociale.
On va faire une courte pause musicale. On se retrouve juste après sur les Radio Patrimoine.
En ces temps confinés, on s'est posé un peu. Loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion, en ces temps confinés, on se pose des questions. Et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables? S'il essayait aussi de nous rendre la vue sur nos modes de vie devenus préjudiciables? Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi, on laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris. La nature fait sa loi en reprenant ses droits, se vengeant de notre arrogance et de notre mépris. Et est-ce un hasard si ce virus immonde n'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants? Il s'en prend aux adultes responsables de ce monde, il condamne nos dérives et épargne les innocents. Ce monde des adultes est devenu si fébrile, l'ordre établi a explosé en éclats. Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles, et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat. Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs que celui de s'attaquer à notre respiration? S'il essayait aussi de nous rendre la mémoire sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions? On se découvre soudain semblables, solidaires, tous dans le même bateau pour affronter le virus. C'était un peu moins le cas pour combattre la misère, on était moins unis pour accueillir l'Aquarius. Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous est vraiment essentiel? Les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme, et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel. On a du temps pour la famille, on ralentit le travail, et même avec l'extérieur on renforce les liens. On réinvente nos rituels pleins d'idées, de trouvailles, et chaque jour on prend des nouvelles de nos anciens. Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros, ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines?
Grand corps malade, effet secondaire. Gaëlle, c'était votre choix musical. Pourquoi ce choix?
Parce que ça dit vraiment ce que vit Appartessence et ce que veut développer Appartessence, c'est-à-dire regarder autrement, réinventer et se repositionner vraiment dans notre société qui est difficile pour plein de gens et qui est en vrai basculement. Donc, voilà,
justement, on va en parler de ce basculement. On parle d'investissement immobilier responsable. Christelle Ortiz, est-ce que vous êtes là, fondatrice et dirigeante de RDFI Conseil? Ça va?
Très bien.
Toujours. Justement, là, on parle, la Gaëlle parlait de basculement de la société. Est-ce que vous le ressentez? Comment vous ressentez les choses, la tendance en ce moment? C'est la reprise. Oui, il y a une reprise, mais comment vous voyez...
C'est une reprise en même temps qui est compliquée, parce que c'est une reprise avec à la fois beaucoup de plans sociaux, c'est une reprise avec des pénuries de matières qui du coup entraînent des problèmes d'activité.
De construction. Donc, aussi.
Ouais, c'est une reprise avec le spectre de l'inflation où on se dit waouh, comment ça va se passer? Est-ce que le pouvoir d'achat, comment il va se...
Bah ça y est, c'est tombé aujourd'hui, hein. On l'a appris dans les journaux, l'inflation aux États-Unis et ça arrive en France. Comment vos clients réagissent? Comment ça va se passer?
Eh ben, en fait, justement, ça renforce encore l'intérêt de l'investissement immobilier, parce qu'on sait qu'en période d'inflation, il vaut mieux de l'investissement tangible.
Oui.
Et en plus, on est quand même un des rares pays au monde, si ce n'est le seul, à faire des prêts en taux fixe en France.
Alors, bon, le PLS, c'est une petite partie, enfin, une partie en variable, donc il faut aussi expliquer aux clients cette partie-là. Mais le reste sera accompagné par un investissement à taux fixe. Et du coup, quand il y a de l'inflation, ça mange le coût du crédit. Aujourd'hui, on a un appétit encore renforcé de nos investisseurs pour aller rechercher cette sécurité-là au travers d'un investissement qui protège de l'inflation, qui permet de gagner en pouvoir d'achat avec son remboursement de crédit à taux fixe et qui permet aussi de se dire « je vais laisser quelque chose de tangible à mes enfants, voire je vais loger mes enfants ».
Et justement, oui, vous parliez là du logement des enfants. Ce problème de logement en France, vous, forcément, ça vous touche, hein, on le sent, on le voit. Comment vous voyez l'avenir là, avec il y a les présidentielles? Est-ce que vous pensez que ça va beaucoup bouger? Marc, peut-être, vous qui connaissez particulièrement les collectivités, les municipales qui se sont passées dernièrement, est-ce qu'il y a eu des changements? Il y a beaucoup de mairies écolo. Et on sait que bon, ils aiment pas trop construire, etc. C'est quoi l'avenir pour vous?
Oui, enfin, en même temps, oui, ils ne veulent pas construire à tout va, mais le besoin de logement est tel que aujourd'hui, on cherche donc à construire mieux. Ouais. Globalement, ils sont conscients du fait qu'on est dans une société où beaucoup moins de contrats durés indéterminés, beaucoup plus d'auto-entrepreneurs, de freelance, etc. Donc, qu'il faut trouver des solutions pour cette société qui est en mouvement sur un plan, on va dire, activité salariale, professionnelle, etc. Donc ce besoin impérieux de loger tout simplement les administrés et leurs enfants pour ne pas qu'ils quittent ce territoire et pour bien garder les forces vives présentes sur le territoire, donc qu'ils soient donc municipal ou métropolitain.
Et là, vous le disiez, beaucoup de personnes qui sont auto-entrepreneurs, qui sont plus en CDI, en fait, il y en a de moins en moins. Est-ce que, du coup, Appartessence, c'est l'avenir, l'investissement immobilier responsable? Est-ce que ce serait une bonne alternative?
C'est une belle alternative et donc un clin d'œil quand même au pouvoir public, puisque nous, la métropole lyonnaise que l'on a rencontrée, à qui on a expliqué, est en fait totalement ouverte à l'investissement responsable. Et un premier concours donc, pour construire un environnement positif, durable, etc., a mis dans son cahier des charges l'investissement responsable comme étant quelque chose à développer. Donc clin d'œil aux promoteurs, ça va se produire de plus en plus. Donc aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience. Évidemment,
la part des politiciens aussi.
Exactement. Donc aujourd'hui, tant la direction du Trésor est très à l'écoute pour simplifier les choses. Comme le disait Christelle, on a quand même un PLS qui est assez contraignant quand on le regarde de plus près. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose de très positif là-dessus, d'améliorer les choses pour faciliter l'accès, pour rassurer l'investisseur. Et puis surtout, voir avec le ministère du Logement qui aime à développer à la fois le logement abordable en accession, mais également la location vertueuse. Voilà.
Pour terminer, alors on va juste rappeler pour tous ceux qui nous écoutent, qui vont écouter aussi le podcast de l'émission, qui veulent passer à l'action, comment faire? Rappelez, voilà, on va résumer, comment faire? Est-ce que, comment ils vous contactent?
Tout à fait, c'est très simple. On nous contacte, donc, Appartessence, contact@appartessence. On a un site, tout est expliqué. Et puis, évidemment, une ligne directe pour nous joindre. Donc, nous les accueillerons avec plaisir. Voilà, donc, les gestionnaires de patrimoine, bien entendu, qui ont envie d'aller plus loin dans les propositions faites, les banquiers, évidemment, et puis tout investisseur en direct, bien entendu.
Oui, ça peut être des personnes lambda
complètement,
qui veulent faire un investissement locatif.
Et qui ont envie de dire youpi, parce que c'est le clin d'œil quand même à un investisseur qui a acheté il y a peu de temps, et Christelle reconnaîtra cette personne. Quand on lui a expliqué ce que c'était, il a dit, moi, j'adore ça, et il me dit youpi, voilà.
Voilà, youpi, ça va être le mot de la fin. C'est Gaëlle Duranton, je rappelle que vous êtes associée en charge du développement immobilier d'Appartessence. Caroline Libby, vous en êtes la fondatrice et dirigeante. Merci d'être venue à Paris dans cette émission. Marc, Marie Neuwer, vous êtes consultant en marketing et développement territorial. Merci pour votre expertise. On va remercier également à distance Christelle Ortiz, conseillère en gestion de patrimoine et surtout fondatrice et dirigeante de RDFI Conseil. Merci aussi pour votre expertise. On se quitte.
Juste, je voulais rajouter moi, oui. Sur le mot de la fin, comme quoi on peut faire de l'investissement socialement responsable. Souvent, on voit ça un truc un peu de bobo, hippie, quelque chose plutôt tourné vers le mécénat, l'associatif, qui n'est pas forcément rentable. Eh bien, si, là, avec Apartessence, c'est pro, mais vraiment très, très pro. Et c'est des fois assez surprenant de se dire que, bah oui, on a ce degré de professionnalisme dans ce domaine-là, et c'est rentable. Donc,
faut pas l'oublier. La rentabilité, voilà, ça compte aussi, c'est vrai.
Oui,
il faut le dire, tout compte en fait. C'est un équilibre. C'est un équilibre entre tout en fait, le solidaire, le responsable et la rentabilité. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Donc à nos invités, un grand merci à notre réalisateur Jason Pinero, à notre productrice Sophie Bernard. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel hebdo patrimoine. À bientôt.
L'hebdo patrimoine. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.